Chapitre 9. Terrilleville. Dans les entrailles de Parangon, Ambre se tournait et se retournait comme un biscuit mal digéré dans le ventre d'un marin. Un rêve qu'il ne pouvait percevoir la préoccupait, transformait son sommeil en une lutte sourde avec elle-même. Parfois, Parangon était tenté de tendre son esprit vers les pensées de la jeune femme pour partager son angoisse, mais la plupart du temps, il s'estimait heureux de ne pas connaître son tourment. Elle était venue vivre à bord. Elle y passait ses nuits pour empêcher qu'on vînt le remorquer et le détruire. À sa manière, elle avait aussi accédé à sa requête en remplissant quelques-unes de ses cales, non de bois de flottage et d'huile de lampe, mais de bois dur et des huiles de finition qu'elle employait dans son travail. Il faisait semblant de croire qu'ainsi, elle pouvait s'installer le soir sous sa proue pour sculpter. Ils savaient tous deux qu'il suffirait d'un instant pour mettre le feu au bois sec avec l'huile. Elle ne le laisserait pas être pris vivant. Parfois, il avait presque pitié d'elle. Il n'était pas facile de vivre dans la cabine inclinée du capitaine. En marmonnant, elle avait déménagé les affaires abandonnées par Brashen. Parangon avait remarqué qu'elle les avait manipulées avec délicatesse et les avait soigneusement rangées dans la cale. Maintenant, elle s'était appropriée la cabine et dormait dans son hamac. Elle cuisinait sur la plage quand les soirées étaient belles, sinon elle mangeait des repas froids. Chaque matin, à l'aube, munie d'un seau, elle se traînait jusqu'à sa boutique. Chaque soir, elle revenait, chargée du seau rempli à ras-bord et de provisions qu'elle avait achetées au marché pour son dîner. Puis, elle allait et venait à l'intérieur en chantant des chansons absurdes. S'il faisait beau, elle allumait un feu et bavardait avec lui en préparant son frugal repas. D'un côté, il trouvait agréable d'avoir de la compagnie tous les jours. Mais d'un autre côté, il s'en irritait. Il avait fini par s'habituer à la solitude. Même au milieu d'une conversation amicale, il se rappelait que leur arrangement n'était que temporaire. Comment pouvait-il en être autrement avec des créatures mortelles? Même si elle restait avec lui jusqu'à la fin de sa vie, elle mourrait un jour ou l'autre. Depuis que cette pensée lui était venue, il ne pouvait s'en débarrasser. Savoir que de toute façon, le temps passé avec Ambre aurait un terme le mettait dans un état d'attente angoissant. Et il avait horreur d'attendre. Il valait mieux en finir et qu'elle s'en aille plutôt que de passer tout son temps avec elle à attendre le jour où elle le quitterait. C'est pourquoi il se montrait souvent irascible et brusque avec elle. Mais pas ce soir. Ils avaient passé une joyeuse soirée. Elle avait insisté pour lui apprendre une chanson stupide, puis il l'avait chantée en chœur, d'abord en duo, puis en canon. Il avait découvert qu'elle aimait chanter. Elle lui avait appris d'autres choses encore. Non à tisser un hamac, comme Brashen. Elle n'avait sans doute pas ses talents de marin. Pourtant, elle lui avait donné du bois tendre et une immense lame pour qu'il pût s'essayer à son art. Parfois, elle jouait avec lui à un jeu qui le troublait quelque peu. Du bout d'une perche, elle le tapotait doucement. Le but du jeu consistait à écarter le bâton. Elle le complimentait quand il y parvenait avant d'être touché. Il faisait des progrès. S'il se concentrait, il pouvait presque sentir la perche au léger déplacement d'air qui l'accompagnait. Il était entendu que ce n'était qu'un jeu. Mais Parangon savait ce qu'il en était en réalité. Il s'agissait d'exercer son adresse afin qu'il soit capable de se défendre si l'on venait à l'attaquer directement. Combien de temps tiendrait-il? Il eut un sourire lugubre dans l'obscurité. Assez pour permettre à Ambre d'incendier les cales. Il se demandait si c'était là l'origine de ses mauvais songes. Peut-être rêvait-elle qu'elle avait mis le feu et qu'elle n'avait pas pu s'échapper. Peut-être rêvait-elle qu'elle brûlait à l'intérieur de la coque, que sa peau grillait tandis qu'elle hurlait. Non, elle ne se réveillait pas en criant, elle gémissait plutôt, elle suppliait. Parfois, quand elle faisait ses cauchemars, elle avait beaucoup de mal à reprendre contact avec la réalité. Alors, tout en sueur, elle sortait sur le pont pour avaler de grandes goulées d'air frais. Quand elle s'asseyait sur le plancher en pente, dos à la cabine, Il sentait trembler son corps frêle. À cette pensée, il haussa la voix.
Ambre ? Ambre, réveille-toi, ce n'est qu'un rêve.
Elle s'agita, fit une réponse incohérente, on eût dit qu'elle l'appelait de très loin.
Ambre !
Répéta-t-il. Elle sursauta violemment, comme un poisson pris dans un filet, puis ce fut le silence. Quelques secondes plus tard, il sentit ses pieds nus sur les planches. Elle se dirigea à tâtons vers les crochets où pendaient ses vêtements, puis traversa le pont incliné. Légère comme un oiseau, elle sauta par-dessus bord et atterrit sur le sable. Elle vint s'appuyer contre son bordage.
« Merci de m'avoir réveillé.
Enfin, je crois, » dit-elle d'une voix rauque.
« Tu voulais continuer ton cauchemar ? » demanda-t-il perplexe. « Je croyais que c'était désagréable, presque aussi désagréable que si c'était réel. »
« En effet, extrêmement désagréable. Mais parfois, quand un rêve comme celui-là est récurrent, c'est parce que je dois le vivre et y prêter attention.
Au bout d'un certain temps, ce genre de rêve peut s'expliquer. Parfois.
Qu'est-ce que c'était, ton rêve ?
Demanda Parangon réticent.
Toujours le même, répondit-elle avec un rire saccadé. Des serpents et des dragons. Le gamin esclave à 9 doigts. En plus, j'entendais ta voix qui proférait avertissements et menaces. Mais ce n'est pas vraiment toi. Tu es quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Tout part en lambeaux, comme une toile d'araignée dans le vent. Plus j'essaie de le saisir, plus il se déchire.
Des serpents et des dragons ?
Répéta Parangon comme à regret. Il eut un rire qu'il voulait sceptique.
« Je me suis fait mon idée sur les serpents autrefois. Je n'ai pas haute opinion d'eux. En revanche, les dragons n'existent pas. Tu as simplement fait un vilain rêve, Ambre. N'y songe plus et raconte-moi une histoire qui nous remettra les idées en place. »
« Non, je ne crois pas. » répondit-elle d'un ton mal assuré. Son rêve l'avait secoué plus qu'il ne le pensait.
« Car si je voulais te raconter des histoires cette nuit, je te parlerais des dragons que j'ai vus voler dans le ciel bleu. C'était il n'y a pas si longtemps et pas si loin d'ici, vers le nord. Je vais te dire une chose, Parangon. Si tu étais amarré dans un port des 6 duchés, et que tu disais aux gens de là-bas que les dragons n'existent pas, ils se moqueraient de toi. »
Elle appuya la tête contre lui et ajouta,
« D'abord, ils devraient s'habituer à l'idée qu'il existe bien des vives nefs. Jusqu'à ce que j'en voie une, que je l'entende parler, je croyais que c'était une fable délirante inventée pour rehausser le prestige des marchands de Terrilleville. »
« Tu nous as vraiment trouvé si bizarre que ça ?»
Elle tourna la tête et leva les yeux vers lui.
« Ce qui est le plus bizarre, mon chéri, c'est que tu ne te rendes pas du tout compte de la merveille que tu représentes. »«
C'est vrai ?»
fit-il en quêtant un autre compliment.
« Tu es aussi extraordinaire que les dragons que j'ai vus. »
Elle croyait que la comparaison lui plairait, mais elle le mit mal à l'aise. Essayait-elle de lui soutirer des secrets? Elle n'obtiendrait rien de lui. Elle parut ne pas s'apercevoir de son mécontentement et continua de rêver tout haut.
« Je crois qu'il y a dans le cœur des hommes une place créée pour l'émerveillement, une place endormie qui attend de s'épanouir. Durant toute la vie, on amasse des trésors pour la remplir. Parfois, ce sont de minuscules bijoux étincelants. Une fleur éclose à l'abri d'un arbre mort, l'arc de sourcil d'un petit enfant conjugué à la rondeur de sa joue. Parfois, cependant, un trésor vous tombe dans les mains et on reste ébahi comme devant le contenu éparpillé d'un coffre de pirate. Tels étaient les dragons en vol. Ils rutilaient de toutes les couleurs de pierres précieuses. Ils avaient toutes les formes possibles et imaginables. Certains ressemblaient aux dragons des histoires de mon enfance, d'autres revêtaient une apparence baroque, d'autres encore étaient terrifiants dans leur étrangeté. C'étaient de véritables dragons, certains à longue queue de serpent, d'autres à deux ou quatre pattes, rouges et verts, dorés et noirs. Parmi eux, des cerfs ailés, un formidable sanglier qui fouettait l'air de ses broches en volant, et un grand serpent ailé, et même un énorme chat aux ailes tigrées. Elle se tut, dominée par une crainte respectueuse.
Alors, ce n'était pas de vrais dragons, fit remarquer Parangon, narquois.
Puisque je te dis que je les ai vus, insista-t-elle.
Tu as vu quelque chose, ou des choses qui avaient emprunté une forme de dragon. Mais ce n'était pas de vrais dragons. C'est comme si tu disais que tu avais vu des chevaux verts, bleus et rouges, à six pattes, transformés en chats. Ce ne seraient pas des chevaux.
Quoi que tu aies vu, ce n'était pas des dragons. Eh bien, mais...
Il était ravi de la voir s'empêtrer dans ses explications, elle qui avait d'ordinaire la langue si bien pendue. Il ne fit rien pour l'aider.
Certains étaient des dragons, finit-elle par riposter. D'autres avaient l'aspect et les couleurs des dragons que j'ai vus sur d'anciens manuscrits et tapisseries.
Certaines de tes choses volantes avaient la forme de dragons, d'autres de chats. C'est comme si tu disais que les chats volants sont réels et qu'ils ont parfois la forme de dragon.
Elle garda un long moment de silence. Il devina qu'elle réfléchissait et que l'enchaînement de ses pensées la ramenait à son histoire à lui.
« Pourquoi, demanda-t-elle d'un ton faussement courtois, est-ce si essentiel à ton bonheur que les dragons n'existent pas ? Pourquoi tiens-tu tellement à anéantir l'émerveillement que j'ai ressenti à la vue de ces créatures ailées ?»«
Mais non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut être clair quand on parle. Que tu aies été émerveillé par eux, je m'en moque. Je pense tout simplement que tu ne devrais pas les appeler des dragons. »
« Et pourquoi ? Si les dragons n'existent pas, quelle importance le nom que je leur donne ? Pourquoi ne les appellerais-je pas dragons si ça me chante ?»«
Parce que, déclara-t-il, agacé plus que de raison, parce que, si les dragons existaient, ils seraient déshonorés d'être mêlés à des créatures aussi grotesques. »
Elle s'assit tout droit, s'écarta de lui. Il sentait confusément le regard insistant qui essayait de scruter dans l'obscurité les vestiges de sa figure épargnée par la hache.
« Tu sais quelque chose ?»
lui dit-elle sur un ton accusateur.
« Tu sais quelque chose sur les dragons, et tu sais quelque chose sur mon rêve et sur ce qu'il signifie, n'est-ce pas ?»«
Je ne sais même pas ce que tu as rêvé, »
affirma-t-il. Bien qu'il se forçât à la tempérer, sa voix devint plus aiguë et se fêla, à chaque fois, au plus mauvais moment, comme un fait exprès.
« Et je n'ai jamais vu de dragon. »
« Pas même dans tes rêves ?»
La question, posée sur un ton doux, était aussi insidieuse qu'une traînée de brume.
« Ne me touche pas !»
dit-il tout à coup.
« Je n'allais pas te toucher. »
Mais il ne la crut pas. Si elle le touchait, bois contre peau, et qu'elle se tendit suffisamment vers lui, elle saurait qu'il mentait. Ce n'était pas juste. Il ne pouvait pas lui faire ça.
« Tu ne rêves jamais de dragon ?»
lui demanda-t-elle d'une voix désinvolte. Mais il ne fut pas dupe.
« Non,
répondit-il laconiquement.
« Tu en es sûr? Tu ne m'as pas parlé un jour de rêve de ce genre ?»
Il haussa les épaules, feinte plutôt apprêtée.
« Eh bien, peut-être que oui. Je ne m'en souviens pas. Peut-être en ai-je rêvé, mais c'était sans importance pour moi. Tous les rêves ne sont pas intéressants, tu sais. En fait, je me demande même s'ils ont une quelconque signification. »
« Les miens, oui, » dit Ambre, vaincue. « Je le sais. Voilà pourquoi je suis si tourmentée quand je n'arrive pas à les comprendre. Oh, parangon, je sens que j'ai fait une erreur. J'espère que ce n'est pas grave. »
Il sourit dans l'obscurité.
« Quelle grave erreur peut donc commettre une fabricante de perles ? Je suis certain que tu te fais du souci pour rien. Dragon et serpent de mer, vraiment, qu'est-ce que ces créatures fantastiques ont à voir avec toi et moi ?»«
Serpent de mer ! » s'exclama-t-elle soudain. « Ah !»
Elle resta silencieuse un long moment. Puis, il sentit la chaleur de son sourire l'envahir.
« Serpent de mer !» répéta-t-elle doucement. « Merci, parangon. Merci au moins pour cela. »«
Tu n'es pas de quart ?»
dit Ophélie à mi-voix.
« Je le sais aussi bien que toi, je ne pouvais pas dormir. »
répondit Althea. Elle jeta un regard au-delà de la figure de proue. Un clapot court agitait la mer. Le doux vin printanier lui plaquait son léger manteau sur le corps.
« Je le sais aussi bien que toi, » riposta Ophélie.
« Cela fait 2 heures que tu te retournes dans ta couchette. Pourquoi ? Tu es impatient d'arriver à Terre-Île-Ville demain. »
« Oui, mais ce n'est pas une impatience joyeuse. Je redoute tout ce que je vais devoir affronter. Ma sœur, ma mère, Kyle, peut-être, si Vivacia est là. Oh, Ophélie, je redoute même de me retrouver devant mon navire. » Comment puis-je le regarder en face et lui expliquer pourquoi je l'ai laissé ?
Tu sais bien que ce ne sera pas nécessaire. Tu n'auras qu'à poser la main sur son bordage et elle devinera tout aussi sûrement que je le fais.
Althea caressa avec tendresse la lys polie.
Quelle merveille pour moi la compréhension qui s'est installée entre nous. Raison de plus de redouter l'arrivée à Terre-Île-Ville demain. Je me sentais en sécurité ici. Je ne peux supporter l'idée de te quitter.
Un pas léger lui fit tourner la tête. C'était Grag. Il se déplaçait sur le pont baigné de lune, pieds nus. Il ne portait que ses culottes. Ses cheveux étaient tout emmêlés comme ceux d'un gamin. Il venait manifestement de se réveiller, pourtant sa démarche conservait une grâce féline tandis qu'il traversait le pont. Un sourire se dessina lentement sur les lèvres d'Althea. Très bas, Ophélie répondit à sa pensée.
« Les hommes n'ont pas conscience de leur beauté. »
Grag s'approchait en souriant.
« J'ai frappé à votre porte. Quand je ne vous ai pas vu, j'ai deviné tout de suite où vous cherchez. »«
Ah !»
intervint Ophélie malicieuse.
« Tu as l'habitude de frapper à la porte d'Althea à ces heures-là, et sans chemise. »«
Seulement quand mon père me réveille et me le demande, » répondit-il avec aisance. Il dit qu'il veut avoir une petite conversation avec nous deux.
« Et je ne suis pas admise dans cette petite conversation ?»
demanda Ophélie, déjà vexée.
« Je suppose que si, puisqu'il m'a dit de réveiller Althea pour qu'elle vienne ici. Je pensais même que c'était toi qui l'avais suggéré. »«
Non, c'est mon idée. »
Le capitaine Ténira entra tranquillement dans leur cercle. Une braise rougeoyait dans le fourneau de son brûle-gueule et une fumée aromatique flottait autour de lui.
« Traitez-moi de vieux poltron si vous voulez, mais je souhaiterais prendre quelques précautions avant d'entrer au bassin à Terre-Île-Ville. Et elles concernent Althea. »
La gravité de son ton dissipa leur humeur badine.
« Qu'avez-vous en tête ? » demanda-t-elle.
« J'ai réfléchi à notre escarmouche avec la galère chalcédienne. Elle battait pavillon du gouverneur.
Les choses ont changé à Terrilleville au cours de ces dernières années. Je ne sais de quelles influences ou faveurs jouit ce capitaine là-bas, ni s'il va porter plainte contre nous,
dit Ténira avec un reniflement de dégoût.
Quand il a repris sa route, il a peut-être filé là-bas. Donc, tout dépend de l'influence dont il jouit, et jusqu'à quel point le gouverneur s'aplatit devant Calcède, il se peut que nous recevions un accueil désagréable.
Un petit silence plana sur le groupe. Grag n'avait pas davantage qu'Altea à songer à cela. Elle n'avait pas considéré l'incident comme insignifiant, jamais de la vie. Les belles mains fines d'Ophélie étaient brûlées. La figure de proue avait beau lui répéter qu'elle ne ressentait pas la douleur, du moins pas à la manière des humains, Altea grimaçait à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil aux mains noircies. Il lui tardait d'arriver à Terrilleville. Elle s'attendait que les anciens marchands partagent sa profonde colère et son indignation devant cette attaque. Elle n'avait jamais songé qu'on puisse juger qu'ils avaient fait tort à la galère calcédienne et à son équipage. Le capitaine Ténira leur laissa le temps de méditer avant de reprendre la parole.
« Comme je l'ai dit, je ne suis peut-être qu'un vieux poltron. À quoi dois-je m'attendre de leur part ? Me suis-je demandé. Eh bien, me suis-je répondu. Ils peuvent saisir mon navire quand je me serai amarré au quai des taxes. Ma foi, ils peuvent même me faire prisonnier avec mon second. Qui donc alors ira voir ma famille pour lui expliquer ce qui nous est arrivé ? Qui témoignera devant le conseil des marchands ? Qui réclamera de l'aide ? J'ai de bons matelots, bons marins, tous autant qu'ils sont, mais, dit-il en secouant la tête, ils ne sont pas plus orateurs qu'ils ne sont marchands.
Vous voulez que j'y aille ?
Proposa Altea qui avait compris immédiatement.
S'il vous plaît.
Bien sûr, sans hésiter.
Je m'étonne même que vous ayez éprouvé le besoin de le demander.
Oh, je ne doutais pas de votre réponse. Mais il y a plus, hélas,
ajouta le capitaine Ténira à mi-voix.
Plus je pense aux changements qui ont pu se produire à Terrilleville, plus je crains l'accueil qu'on nous y réserve. Pour plus de sûreté, je crois qu'il vaudrait mieux reprendre votre déguisement de garçon. Ainsi, vous pourrez facilement vous faufiler hors du navire, s'il le faut.
Tu crois vraiment qu'on risque d'en arriver là ?
Questionna Grag, incrédule.
« Fils, soupira le capitaine, nous transportons un mât de secours dans la cale. Pourquoi ? Non parce que nous en aurons probablement besoin, mais parce qu'il se peut qu'on en ait besoin un jour. Je préfère tenir le même raisonnement dans cette affaire. »
« Mais c'est comme si on l'envoyait affronter seul le danger ?»
objecta soudain Grag. Son père le toisa.
« Si nous en arrivons là, nous l'aiderons en fait à échapper au danger avant que la trappe ne se referme sur elle aussi. Ils auraient davantage intérêt à retenir en otage deux marchands qu'un seul. »«
Eux ? Qui c'est, eux ?»
demanda tout à coup Ophélie.
Et pourquoi un marchand devrait-il craindre qui que ce soit à Terrilleville, sinon un autre marchand ? Terrilleville est notre cité. Le gouverneur Esclépius ne nous l'a-t-il pas cédé par acte de transfert il y a des années ?
Et le gouverneur Cosgo nous grignote cet acte depuis qu'il a hérité du manteau de justice.
Le capitaine Ténira se tut, comme s'il ravalait de plus amères paroles. D'une voix adoucie, il poursuivit.
D'autres sont arrivés au pouvoir à Terrilleville. D'abord, nous n'avons prêté que peu d'attention aux collecteurs d'impôts. Même quand ils ont exigé une taxe de quai pour le mouillage des bateaux, nous l'avons admise, la jugeant raisonnable. Quand ils ont réclamé le droit d'inspecter eux-mêmes les cargaisons, au lieu de croire le capitaine sur parole, nous avons ri et avons accepté. C'était notre ville. Avec leurs soupçons, ils étaient désagréables, mais pas beaucoup plus que des enfants mal élevés. C'était compté sans cette vague de soi-disant nouveaux marchands qui se sont alliés avec les collecteurs d'impôts du gouverneur pour gagner du pouvoir. Personne parmi nous n'a cru qu'un gouverneur accepterait de s'allier à ces sales Chalcédiens, et encore moins qu'il autoriserait leurs galères à croiser dans nos eaux sous le couvert de la loi et sous prétexte de nous protéger. »
Il secoua la tête.
« J'ai réfléchi à tout ceci, ce soir, et c'est pourquoi j'ai décidé de pécher par excès de prudence. »
Cela paraît sage, commença Althea, mais Ophélie l'interrompit.
Tu dis qu'ils peuvent me saisir?
Je ne le permettrai pas. Je n'ai pas permis à ces porcs de Chalcédiens de m'aborder, et je ne permettrai pas.
Si tu le permettras.
La coupa net ténira.
Tout comme Grag et moi leur permettrons de nous détenir le cas échéant. J'ai bien réfléchi, ma chère. J'ai envisagé jusqu'aux pires hypothèses. Il est temps que Terrilville se réveille. Nous avons dormi sur nos deux oreilles, en laissant les autres écorner et grignoter ce qui nous appartient. Il y a quelques jours, des forbans Chalcédiens déguisés en patrouilleurs du gouverneur nous ont attaqués. Demain, des fripouilles et des ravisseurs déguisés en collecteurs d'impôts légaux peuvent nous mettre en détention. Nous les laisserons s'emparer de nous et nous faire prisonniers. Non parce que nous leur reconnaissons le droit d'agir ainsi, ni parce que nous ne pouvons nous opposer à eux, mais bien pour démontrer à Terrilville les pouvoirs que ces petits parvenus se sont arrogés. Il faut que le danger soit avéré tant qu'il est encore facile à conjurer. Donc, je t'en supplie, s'ils tentent de s'emparer de toi, s'ils vont même jusqu'à poster à bord des gardes armés, il faut les laisser faire, à mon avis. Ils ne peuvent pas nous retenir longtemps, une fois que Terrilville se sera réveillé. Qu'Ophélie devienne le point de ralliement de l'orgueil marchand.
La vive nef laissa le silence peser un moment.
« Je le permettrai alors, je crois, »
concéda-t-elle finalement.
« Mais seulement parce que tu me le demandes. »«
Bravo, ma fille !»
approuva Ténira avec chaleur.
« Ne crains rien. Grag et moi-même veillerons à ce que tu n'en pâtisses pas. »
Ophélie roula des épaules.
« Et moi, je veillerai à ce que vous n'en pâtissiez pas. »
renchérit-elle. Le capitaine eut un pâle sourire.
« Eh bien, voilà qui me soulage grandement, »
dit-il en regardant tour à tour Grag et Althea. Puis, les yeux perdus dans la nuit baignée de lune,
« Je suis épuisé tout d'un coup. Voudriez-vous prendre mon quart? Vous avez l'air bien réveillé. »
« Volontiers, capitaine. Vous m'avez donné matière à réfléchir. »«
Merci. Continuez, Althea. Bonne nuit, Grag. »«
Bonne nuit, capitaine, »
répondit son fils. Ténira n'était pas encore hors de portée qu'Ophélie fit remarquer.
« Comme c'est gentil. Il a trouvé le moyen de vous laisser seul au clair de lune. »«
C'est dommage que tu ne puisses faire de même, » rétorqua Grag sans rancune.
« Vous laissez sans chaperon? Quelle honte d'avoir même osé suggérer une chose pareille !»
Grag ne répondit pas, mais alla à bâbord et se pencha par-dessus la lisse. Avec un clin d'œil et un mouvement brusque de sa grande tête, Ophélie pressa Althea de l'y rejoindre. Celle-ci soupira avec regret et obéit à la suggestion du navire.
« Vous ne m'avez pas dit grand-chose ces derniers temps ?»
fit remarquer Grag à mi-voix, face à la mer.
J'ai eu beaucoup de travail. Quand votre père me donnera son étiquette, je veux l'avoir vraiment méritée.
C'est déjà fait. Personne à bord de ce navire ne mettrait en doute votre compétence. Pourtant, je ne pense pas que vous ayez été si occupé que cela.
Je crois plutôt que notre dernière conversation vous a mise mal à l'aise.
Elle ne nia pas. « Vous parlez très franchement, n'est-ce pas? Cela me plaît. »
À question simple, réponse simple d'habitude. Un homme aime savoir où il en est.
C'est censé. Une femme a besoin d'un peu de temps pour réfléchir.
Althea s'efforçait de garder un ton léger sans être désinvolte. Toujours sans la regarder, il insista.
La plupart des femmes n'ont pas besoin de temps pour savoir si oui ou non elles aiment.
Y avait-il dans sa voix un soupçon d'amertume? « Ce n'est pas ce que vous m'avez demandé, je crois, » répondit Althea avec honnêteté. « Je pensais que notre discussion portait sur l'éventualité d'un mariage entre nous. Si votre question est « Arriverai-je à m'attacher à vous ?» alors la réponse est facile. « C'est oui. Vous êtes attentionné, courtois et gentil. »
Elle lança un regard vers Ophélie. La figure de proue écoutait attentivement, immobile, les yeux fixés sur la mer.
Althea haussa un peu la voix.
« Sans compter que vous êtes très beau et que vous êtes susceptible d'hériter d'un splendide navire. »
Comme elle l'espérait, ils rirent tous les deux et l'atmosphère se détendit.
Grag posa sa main sur celle d'Althea, comme par hasard. Elle ne la retira pas, mais ajouta à un ton plus bas, « Le mariage n'est pas seulement une question d'amour, surtout un mariage entre deux familles marchandes, car c'est de cela qu'il s'agit, non d'une simple union mais d'une alliance entre nos deux familles. Je dois réfléchir à beaucoup de choses. Si je vous épouse, que je navigue avec vous, qu'adviendra-t-il de mon propre navire? Tout ce que j'ai fait cette année, Grag, je l'ai fait dans le but de le récupérer. » Vous épouser signifierait-il renoncer à Vivacia?
Elle lui fit face et il baissa sur elle des yeux assombris.
Renonceriez-vous à l'Ophélie pour m'épouser et vivre avec moi à bord de la Vivacia que je commanderai?
Son expression interloquée montrait assez qu'il n'avait jamais réfléchi à la question.
Et ce n'est que la première de mes préoccupations. Qu'apporterais-je dans notre partenariat sinon mes dettes de famille? Je n'ai rien hérité de mon père, Grag.
Rien, si ce n'est ma compétence de marin. Je suis certaine que ma famille me constituerait une dot au nom des convenances, mais qui ne correspondrait pas à celle qu'on attend ordinairement d'une fille de marchand, fit-elle en secouant la tête. Vous auriez davantage intérêt à épouser une fille de trois navires. Il paye largement pour nouer des alliances.
Il retira sa main et demanda avec une certaine froideur,
« Vous croyez que c'est la raison de ma proposition? Savoir combien votre famille offrirait? »
« Non. Cependant, c'est un point que je me dois d'examiner, ne serait-ce que par fierté. Vous avez dit vous-même que les projets devaient passer avant la passion. Donc, j'examine la situation sous tous ses angles. Regardez les choses froidement, Grag. Pour vous épouser, je devrais non seulement renoncer à mon navire, mais aussi accepter de le voir aux mains d'un homme que je méprise. Pour m'épouser, vous devriez renoncer à d'autres partenaires qui pourraient représenter de fructueuses alliances pour votre famille. Si vous considérez ces aspects, l'affaire ne s'annonce pas très bien pour nous. »
Il prit une lente inspiration.
« Vous avez raison, je suppose, et... »«
Mais embrasse-la donc, grand Adet !»
siffla Ophélie tout haut. Althea éclata d'un rire, aussitôt étouffé par les lèvres de Grag.
Si le baiser la surprit, la réaction de son corps la stupéfia. Elle sentit monter en elle une bouffée de chaleur, se tourna vers lui et posa une main sur son épaule. Elle s'attendait qu'il l'enlaçât et prolongeât le baiser. Avant qu'elle eût le temps de se demander jusqu'où elle lui permettrait d'aller, il s'écarta et recula légèrement.
Il s'agissait de Grag, non de Braschen.
Grag, dominé par la raison, non par la passion.
Elle se défendit d'être déçue par la comparaison et se persuada qu'elle avait été elle-même sur le point d'interrompre le baiser.
Grag Tenira n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Il n'était pas une aventure anonyme dans un port lointain. La façon dont elle se comportait avec lui aurait des conséquences sur sa vie future à Terrilville. La prudence était de mise. Elle prit une inspiration.
« Eh bien ?»
dit-elle sur un ton qui se voulait surpris mais non indigné.
« Pardon, »
marmonna-t-il en détournant les yeux avec un demi-sourire qui n'avait rien de contrit.
« Ophélie me mène à la baguette depuis que j'ai 8 ans. »
Ça avait tout l'air d'un ordre impératif, en effet, convint-elle avec affabilité. Elle se tourna vers la mère. Au bout d'un moment, il reposa la main sur la sienne. « Il y aura des difficultés à surmonter, » dit-il avec sagesse. « Mais cela vaut pour toute entreprise, Althea. Je vous prie seulement de réfléchir à ma proposition. Je ne peux tout de même pas vous demander une réponse immédiate. Vous n'en avez pas parlé avec votre famille. Je n'ai pas abordé le sujet avec mes parents. Nous ne savons pas quelle tempête nous allons affronter quand nous serons à Terrilville. Je voudrais seulement que vous réfléchissiez à ma proposition. C'est tout. »
« C'est entendu, »
répondit-elle. La nuit était légère autour d'eux et chaude l'étreinte de sa main calleuse. Elle ignorait ce que le capitaine Ténira ou Greg avaient dit à l'équipage, mais personne ne trahit la moindre surprise quand elle surgit sur le pont dans ses frusques de garçon. Ophélie fit son entrée dans le port de Terrilville sous une jolie brise qui fit se démener les matelots. Si l'un d'eux avait reconnu dans Althea l'attelle de Chandelle, il n'eut pas la sottise de le dire. Ils acceptèrent qu'elle peinât à leur côté en se contentant de la taquiner avec bonhomie. Ophélie naviguait de bon cœur. La vive nef aguerrie connaissait son affaire, coopérait avec son équipage et criait des conseils au timonier. Il ne s'agissait pas de faire accoster un engin pourvu de gréement, de voiles et de cordages, mais de guider une créature douée de conscience de retour à son port d'attache. Les embarcations de l'Ophélie furent amenées pour l'aider à gagner son poste de mouillage au quai des taxes. Althea prit place sur un banc de nage et s'empara d'un aviron. Le capitaine Ténira avait décrété que c'était le meilleur moyen de l'éloigner du navire et de lui donner une chance de s'esquiver si besoin était. Après toutes les dispositions qu'ils avaient arrêtées, il fut presque décevant de constater que le trafic du port était si ordinaire. Personne ne semblait prêter une attention particulière à l'Ophélie. Tandis qu'Althea parcourait du regard le port animé, elle se sentit soudain envahie par une émotion beaucoup plus forte que la nostalgie. Elle avait voyagé plus loin et plus longtemps avec son père. Pourtant, elle eut l'impression d'avoir quitté Terrilville depuis des années. La ville se nichait dans une baie d'un bleu étincelant. Des collines onduleuses, verdoyantes, dominaient la cité marchande animée. Avant même l'accostage, elle sentit les odeurs de fumée, de cuisine, de bétail. Les cris aigus des colporteurs sur le marché flottaient sur l'eau. Les rues grouillaient autant que les eaux du port. De petites embarcations faisaient la navette entre les quais et les navires à l'ancre. Des bateaux de pêche louvoyaient entre les grands voiliers pour apporter leur marée au marché. C'était une symphonie de couleurs, de bruits et d'odeurs dont le thème était Terrilville. Une note discordante détruisit l'harmonie du tableau. Un bâtiment qui quittait le port laissa lentement apparaître une galère chalcédienne amarrée au quai des taxes. Le pavillon du gouverneur pendait mollement à l'unique mât. Althea sut, au premier coup d'œil, qu'il ne s'agissait pas de celle qui les avait arraisonnés. Celle-ci arborait à la proue une tête de chat avec des crocs et paraissait n'avoir subi aucun dommage. Althea fronça les sourcils. Combien étaient-elles, ces galères, à croiser dans les eaux de Terrilville? Et pourquoi avait-on autorisé celle-ci à mouiller dans le port? Elle garda ses pensées pour elle et participa comme un simple mousse aux corvées d'amarrage. Quand le capitaine Ténira lui ordonna en aboyant d'apporter son sac marin et de se remuer un peu, elle ne broncha pas. Elle devina qu'il la voulait comme témoin de son entretien avec le ministre des taxes du gouvernement. Elle mit à l'épaule son petit sac de toile et lui emboîta humblement le pas. Gragg, en sa qualité de second, restait à bord pour surveiller le navire. Teniara pénétra à grandes enjambées dans le bureau du ministre des taxes. Un commis les salua et réclama avec rudesse le manifeste de cargaison du navire. Althea regarda ailleurs, même quand Teniara tapa du poing sur le comptoir et exigea de parler au ministre soi-même. Le commis poussa un petit cri de stupéfaction, puis se ressaisit.
« C'est moi qui suis de service aujourd'hui, capitaine. Votre manifeste, s'il vous plaît. »
D'un air de subtil dédain, Teniara poussa les documents sur le comptoir.
« Voici le manifeste de mon navire. Colle-toi le nez dedans, mon gars, et calcule combien je dois. Mais fais-moi venir quelqu'un qui ne s'occupe pas seulement de mitraille et de cargaison. J'ai une plainte à déposer. »
Une porte s'ouvrit sur un homme en robe. Son crâne rasé et son toupet indiquaient son statut de ministre du gouverneur. Bien en chair, il portait une tunique brodée aux manches, sur la poitrine et aux ourlets. Ses mains pâles étaient serrées devant lui.
« Pourquoi harcelez-vous mon adjoint ? » demanda-t-il.
Pourquoi une galère de guerre chalcédienne est-elle amarrée à quai? Pourquoi une galère similaire a-t-elle arraisonné mon navire, soi-disant au nom du gouverneur? Depuis quand les ennemis de Jamélia sont-ils autorisés à mouiller tranquillement dans le port?
Teniara ponctuait chaque question d'un coup de poing sur le comptoir. Le ministre ne sourcilla pas.
« Les corsaires chalcédiens sont des représentants du gouverneur. Ils sont autorisés à mouiller ici depuis que le gouverneur les a nommés gardiens de la passe intérieure. Les deux galères sont venues se déclarer officiellement en présentant leurs lettres de créance. Leur seul but est de juguler la piraterie. Ils attaquent à la fois les bateaux pirates et leurs colonies hors la loi. » Ils vont aussi lutter contre la contrebande qui les fait vivre. Si ces mécréants n'ont pas de marché pour écouler leurs marchandises volées, leur commerce cessera de lui-même. »
Le ministre s'interrompit pour arranger un pli de sa manche. D'un ton las, il reprit.
« Il est certain que certains à Terrilville se sont plaints de la présence chalcédienne. Mais le quai des taxes est la propriété du gouverneur. Lui seul a qualité d'interdire aux chalcédiens de s'y amarrer, et il leur en a donné l'autorisation expresse. »
Il eut un petit reniflement de mépris.
« Je ne crois pas que le capitaine d'un navire de commerce puisse annuler la parole du gouverneur. »
Le quai appartient peut-être au gouverneur, mais les eaux qui l'entourent sont le port de Terrilville, alloué par charte aux marchands. Traditionnellement et légalement, nous n'autorisons aucune galère chalcédienne à croiser dans nos eaux.
Le ministre regarda au-delà de Teniara.
Les traditions changent, ainsi que les lois,
répliqua-t-il d'une voix lourde d'ennui.
« Cette ville n'est plus un trou perdu provincial, capitaine Teniara. C'est un centre commercial qui se développe rapidement. C'est tout au profit de Terrilville que le gouverneur lutte contre les pirates qui infestent les voies maritimes. Terrilville devrait régulariser ses rapports commerciaux avec les Chalcédiens. Jamélia ne voit aucune raison de considérer Chalcède en ennemi. Alors, pourquoi Terrilville enverrait-il ?
Jamélia ne partage pas de frontières avec Chalcède. Les fermes et colonies de Jamélia n'ont pas été pillées ni incendiées. L'hostilité de Terrilville envers Chalcède est fondée sur l'histoire et non sur des soupçons. Ces navires n'ont pas le droit de se trouver dans notre port. Je m'étonne que le Conseil des marchands ne s'y soit pas opposé.
Ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de la politique intérieure de Terrilville,
déclara brusquement le ministre.
Ma fonction, ici, est de servir le gouverneur en collectant ses taxes légales. Quorum, vous n'en avez pas bientôt terminé avec ces chiffres. Quand je vous ai accepté comme commis, j'avais compris au dire de votre oncle que vous étiez rapide en calcul. Pourquoi ce retard ?
Althea eut presque pitié du commis. Néanmoins, il était manifestement habitué à essuyer les humeurs du ministre, car il se contenta de sourire avec obséquiosité et de faire claquer un peu plus vite ses baguettes de compte.
« C'était deux, » marmonna-t-il à l'intention de ceux qui l'observaient. « Droit de mouillage, droit de sécurité et droit de patrouille, cela nous fait... plus la surtaxe sur les articles tissés n'ont jamais lien. »
Il griffonna un nombre sur la tablette dont le ministre s'empara avant qu'Althea ait pu déchiffrer.
Il promena un doigt sur l'addition avec un regard désapprobateur. « Ce n'est pas exact !»
siffla-t-il.
« Je l'espère bien !»
renchérit Ténira avec véhémence. Il toisa le ministre de toute sa hauteur.
« C'est le double de ce que j'ai payé comme droit la dernière fois, et le pourcentage sur les articles tissés non jamais liens est... »«
Les tarifs ont augmenté !»
l'interrompit le ministre.
« Il y a aussi une nouvelle surtaxe sur les produits de métal travaillé. Vos articles en étain entrent dans cette catégorie, à ce que je crois. » « Recomptez-moi cela immédiatement et comme il faut !»
Il claqua la tablette sur le comptoir devant le commis, qui inclina la tête et opina du bonnet.
« Rinstein est une ville jamélienne !»
déclara Tommy Ténira indigné.
« Rinstein, comme Terrilville, est sous la férule de Jamélia, mais ne se trouve pas en territoire jamélien. En conséquence, ce n'est pas une ville jamélienne. Vous devez payer la surtaxe.
« Certainement pas !»
s'exclama Ténira. Althea retint un hoquet de surprise. Elle s'était attendue que Ténira discutât les taxes qu'il devait. Le marchandage assurait la cohésion de la société de Terrilville. Personne ne payait sans discuter. Il aurait dû offrir un généreux pot de vin au ministre sous forme d'un repas plantureux dans un établissement voisin ou un échantillon des marchandises de choix que transportait l'Ophélie. Mais Althea n'avait jamais vu un marchand refuser purement et simplement de payer.
Le ministre plissa les yeux, puis haussa dédaigneusement les épaules. « À votre guise, capitaine, cela m'est parfaitement égal. » « Votre navire restera amarré à ce quai avec sa cargaison tant que les droits convenables n'auront pas été acquittés. »
Puis soudain, il haussa le ton.
« Garde, s'il vous plaît, il se peut que j'aie besoin de vous ici. »
Ténira ne jeta même pas un regard aux deux costauds qui franchissaient la porte. Son attention était rivée sur le ministre.
« Ces droits sont tout sauf convenables !»
dit-il en tapotant du doigt la tablette que le scribe était toujours en train de compléter.
« Et qu'est-ce donc que ça, patrouille, et ça, sécurité ?»
Le ministre laissa échapper un long soupir de martyr.
« Comment voulez-vous que le gouverneur dédommage ceux qu'il a engagés pour vous protéger ?»
Althea avait cru que l'indignation de Ténira était une ruse de marchandage. Mais devant la figure cramoisie du capitaine, elle ne douta plus de la sincérité de sa colère.
« Vous voulez parler de ces excréments de la terre ? Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Je ne paierai pas pour que ces pirates mouillent dans le port de Terrilville !»
Les gardes étaient tout proches, soudain, juste au coude de Ténira. Althea, dans son rôle de mousse, tâchait de prendre l'air d'un dur et d'adopter l'attitude de son capitaine. Si Ténira décochait un coup de poing, elle se devrait de bondir à la rescousse, comme tout mousse qui se respecte, mais la perspective ne l'enchantait guère. Elle ne s'était jamais trouvée prise dans une bagarre, hormis une petite échauffourée en compagnie de Brashen. Elle carra les mâchoires et choisit pour cible le plus jeune des deux hommes. Mais on n'en vint pas à ses extrémités. Ténira baissa soudain la voix et grogna.
« Je vais soumettre l'affaire au conseil des marchands !»«
Comme bon vous semble, capitaine !»
ronronna le ministre. Althea le trouva stupide. Un homme plus avisé se serait bien gardé de mettre Tommy Ténira au défi. Elle crut que le capitaine allait le frapper, mais il eut un petit sourire étriqué.
« Comme bon me semble, en effet !»
répéta-t-il, suave. D'un geste vif, il fit signe à Althea de le suivre et ils quittèrent le bureau des taxes. Il ne dit pas un mot jusqu'à ce qu'ils eussent regagné le navire. Alors, il lui ordonna.
« Va me chercher le second, et plus vite que ça. Fais-le venir dans ma cabine. »
Althea s'exécuta promptement. Quand ils furent enfermés dans la chambre du capitaine, Ténira servit trois mesures de rhum. Il ne s'arrêta pas aux convenances, pas plus qu'Althea qui avala le rhum d'un trait. La scène dans le bureau des taxes l'avait glacé davantage qu'une nuit passée sur le pont.
« Les choses se présentent mal. »
Tels furent les premiers mots de Ténira à son fils.
« Pire que ce que je craignais. Non seulement les Chalcédiens sont amarrés ici, mais le conseil des marchands n'a même pas protesté. Pire encore. » Ce damné gouverneur a augmenté les droits et les taxes sur notre commerce pour rétribuer leur présence ici.
Tu n'as pas payé ? Demanda Grag, incrédule.
Bien sûr que non !
Grogna Ténira.
Il faut bien qu'il y en ait un qui résiste à ces âneries. C'est peut-être un peu casse-cou d'être le premier, mais je parie qu'une fois qu'on aura donné l'exemple, les autres suivront. Le ministre dit qu'il va nous retenir à bord. Parfait. Tant que nous sommes amarrés ici, on occupe la place. Encore quelques-uns comme nous, et il ne sera plus en mesure de traiter des navires ni des taxes. Grag, tu vas souffler un mot discrètement à Ophélie. Que ça nous aide, mais j'ai l'intention de lui lâcher la gourmette, qu'elle se montre insupportable et chippie, comme elle sait si bien l'être. Les débardeurs et les passants n'auront qu'à bien se tenir. »
Althea se surprit à sourire. Dans la petite pièce, l'atmosphère était aussi électrique que s'il y avait une tempête dans l'air. Et il s'agissait bien d'une tempête, en effet. Et que son père avait vu se préparer depuis des années. Pourtant, elle était mortifiée qu'un vieux capitaine comme Ténira en attira le premier éclair sur sa tête.
« Que voulez-vous que je fasse ?»
demanda-t-elle.
« Rentrez chez vous. Racontez à votre mère tout ce que vous avez vu et entendu. Je n'ai pas aperçu la vivacia dans le port, mais si elle est là, je vous demande de mettre de côté vos différends avec votre beau-frère et d'essayer de le convaincre que nous devons tous nous unir pour résister. Moi-même, je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. Grag, je te confie le navire. » Au premier relent de Roussy, envoie-moi un message par Calco. Althea.
Althea pesait le pour et le contre. Elle finit par acquiescer lentement de la tête. Malgré l'horreur que lui inspirait l'idée d'une trêve avec Kyle, le capitaine Ténira avait raison. L'heure n'était pas à la division pour les marchands de Terrilville. Le sourire que les Ténira lui adressèrent en valait la peine.
« J'avais idée que je pouvais compter sur vous, fillette, »
dit le capitaine Ténira avec tendresse. Grag s'épanouit. « Et moi, je le savais. »